Vous écoutez On lit pour vous.
Attention au traumatisme sonore, un texte de Paul Côté, paru le 23 février 2024 dans le magazine Virage. Lorsque les bruits atteignent une certaine intensité, ils ont le potentiel de causer une surdité temporaire ou permanente, ou un acouphène, même si ces bruits sont de très courte durée. On parlera ici de traumatisme sonore. Quand puissance rime avec nuisance. Le traumatisme sonore est une atteinte à l'oreille à la suite d'une exposition à un bruit excessif soudain. L'oreille est un organe fragile et certaines structures peuvent être endommagées, voire détruites par une onde sonore trop puissante. Il est important de savoir que les cellules auditives ne peuvent pas se régénérer une fois endommagées. Un tel phénomène peut être causé par une variété de sons de haute intensité. En voici quelques exemples. Outils qui génèrent des bruits d'impact, exemple, marteau-piqueur, arme à feu, haut-parleurs émettant de la musique à fort volume sonore, explosion, déploiement d'un sac gonflable, lors d'un accident de voiture. Les conséquences d'un traumatisme sonore peuvent être temporaires ou permanentes. Parmi celles-ci, il peut y avoir baisse auditive, sensation d'oreille bouchée, acouphène, sensibilité au son, étourdissement, distorsion des sons et des voix, douleur à l'oreille. Traitable ou non? Dans certains cas, il est possible de traiter les traumatismes sonores. Toutefois, la récupération du système auditif ne sera pas nécessairement complète. En effet, certains traumatismes sonores seront suivis d'une récupération spontanée qui ne nécessitera pas d'intervention médicale. Cependant, il arrive que les répercussions soient permanentes et donc que la perte auditive ne puisse être corrigée naturellement. Dans un cas comme dans l'autre, il est primordial de consulter immédiatement un médecin à la suite d'un traumatisme sonore. Plus le problème sera pris en charge rapidement, meilleures seront les chances de récupération du système auditif. Il est également fortement recommandé de prendre un repos sonore à la suite du traumatisme, et ce, en s'éloignant des sources de bruit de forte intensité et en s'assurant de porter des protections auditives, embouts protecteurs, coquilles anti-bruit. Comment éviter un traumatisme sonore? Certains bruits d'impact surviennent subitement, sans crier gare. Il est donc peu probable que nous ayons le temps de nous en éloigner pour éviter les impacts. Toutefois, lorsqu'il est possible d'anticiper l'émission de ces bruits, mieux vaut utiliser les moyens nécessaires pour éviter qu'ils ne soient nocifs pour nos oreilles. Une fois encore, on suggère le port d'embouts protecteurs ou de coquilles anti-bruit. Il est également recommandé de modifier certaines méthodes de travail ou de repenser certaines de nos actions pour amoindrir les risques de traumatisme sonore. Par exemple, privilégier un outil électrique au lieu d'un outil pneumatique, déposer une pièce au lieu de la laisser tomber, ou encore ne pas se placer près d'un haut-parleur à fort volume sonore lors d'un concert. Pour les amateurs de chasse, le choix d'une arme à feu moins bruyante et le port de protecteurs auditifs feront bien évidemment toute la différence. Si vous avez des questions concernant les traumatismes sonores, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou une professionnelle de la santé auditive. Paul Côté est audioprothésiste. C'était « Attention aux traumatismes sonores », un texte de Paul Côté, paru le 23 février 2024 dans le magazine Virage.
Une journée chez SABSA, le canot de sauvetage du réseau. Un texte d'Isabelle Porter paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir. Le succès de la coopérative de solidarité SABSA à joindre et à soigner les plus démunis de la société tient en partie au fait qu'elle offre un service sans rendez-vous, un vrai, et qu'elle ne refuse personne. Tant et si bien que le personnel du réseau ordinaire y envoie les patients qu'ils n'arrivent pas à traiter ou à suivre en établissement. Ce n'est pas moi qui suis venu aider la clinique, c'est la clinique qui est venue m'aider moi, résume le docteur Roch-Hugo Bouchard. Ce psychiatre travaillait à l'Institut universitaire en santé mentale, IUSMQ, de Québec, quand il a commencé à voir un patient chez SABSA en 2017. Le patient avait eu des problèmes avec la justice. Il présentait des troubles psychotiques, il avait poignardé quelqu'un et aucun service ne voulait le suivre une fois qu'il était sorti de l'hôpital. Depuis septembre 2023, le docteur Bouchard travaille à la coopérative SABSA à temps plein. Lors de la visite du devoir, il recevait Jean-François. Nous présentons les patients interviewés sous un prénom fictif pour des raisons de confidentialité. Un jeune homme de 27 ans, venu à la clinique parce qu'il a craché du sang lors d'une crise de panique sur son lieu de travail. Il ne veut rien savoir des hôpitaux, dit avoir peur d'être attaché. Il a un TDAH et consomme des amphétamines depuis l'adolescence. En plus du docteur Bouchard, trois médecins spécialistes voient des patients chez SABSA, en santé publique, en infectiologie et en gastro-entérologie. Quand SABSA est arrivé, ça bousculait tout le monde. Mais maintenant, la clinique est devenue essentielle dans le réseau, dit Agnès Maltais, présidente de la Fondation SABSA. L'infirmière praticienne spécialisée, IPS, Isabelle Tétu, dit recevoir régulièrement des références de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, IUSMQ, mais aussi de différentes cliniques et d'autres organismes communautaires. Ce dont elle ne se plaint pas, mais elle estime que c'est la preuve que SABSA comble un vide. Cette demande-là en provenance du réseau, ça ne diminue pas, dit-elle. Pierre-Luc. Les patients de SABSA sont souvent barrés ailleurs, note l'IPS, parce qu'ils ne respectent pas les rendez-vous ou encore parce qu'ils se présentent intoxiqués ou ivres dans les organismes, ce qui est interdit presque partout. C'est le cas de Pierre-Luc, qui attendait à la porte de la clinique quand Isabelle Tétu est arrivée le lundi matin. Il vit dans la rue presque tout le temps, dit avoir été mis dehors du refuge L'Aube Rivière et d'une pharmacie. Il est là pour renouveler ses prescriptions de méthadone et de Concerta pour son TDAH. « Ta consommation, ça dit quoi de ce temps-ci? » lui demande Isabelle Tétu. « Je ne consomme plus de morphine. Du cannabis, oui, tous les jours, » répond l'homme à voix basse, tapis dans sa capuche. L'infirmière en profite pour s'enquérir du reste. Cela faisait un an qu'elle ne l'avait pas vu. Elle dit qu'il peut être un petit peu déplaisant, mais qu'il était top shape ce jour-là. Le docteur Bouchard a remarqué que même les patients les plus instables sont généralement calmes lorsqu'ils sont chez SABSA. C'est rare qu'on fait venir la police. Les gens ont moins peur, ils sont moins agités. Mais ça brasse quand même plus qu'ailleurs, concède le réceptionniste François Routier, qui se décrit lui-même comme un hurluberlu. Je déplace de l'air. Pour un réceptionniste, c'est pas idéal, mais ici, ça a du bon. Dans la salle d'attente, plusieurs patients ont l'air intoxiqués. La conversation avec M. Routier est interrompue par un bruit sourd dans les toilettes. L'homme à l'intérieur est tombé par terre. Il en sort étourdi en expliquant qu'il n'a pas mangé. Jade et Daniel. La clinique offre du sans-rendez-vous tous les après-midi en semaine. Jade, travailleuse du sexe d'origine autochtone, s'y est présentée en mini-jupe un mardi, malgré le froid hivernal. Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas pris son antipsychotique. Elle est supposée prendre une injection par mois, explique Isabelle Tétu. C'est où qu'on peut te joindre quand t'as besoin de ton injection? Demande-t-elle. La femme n'a pas de téléphone cellulaire. Elle dit qu'elle reste chez un ami de gars. Les premières années, la clientèle comptait des marginaux, mais également beaucoup de gens du quartier et des environs qui n'avaient tout simplement pas de médecin de famille. C'est moins le cas aujourd'hui, selon l'IPS. Ces personnes-là, le GAP les prend en charge de plus en plus, note-t-elle. En revanche, la clientèle marginalisée est de plus en plus fragile et les cas sont plus lourds, comme les demandeurs d'asile qui sont de plus en plus nombreux à la fréquenter. Lors du passage du devoir, Isabelle Tétu a reçu Danielle, une femme débarquée d'Afrique centrale en 2019 au terme d'une véritable odyssée du malheur. Les larmes coulent doucement sur ses joues alors qu'elle raconte d'une voix à peine audible comment elle a contracté le VIH lors d'un viol dans son pays d'origine. Puis comment l'Église de sa communauté a ostracisé sa famille lorsqu'elle l'a appris. Elle demande si c'est à cause du VIH qu'on lui refuse un permis de travail. L'IPS lui dit que non. Elle lui parle d'un nouveau médicament gratuit, la questionne sur son anémie. « Est-ce que vous avez déjà pris des suppléments de fer ?» La femme s'engage à revenir dans un mois pour un suivi. D'ici là, elle va retrouver la mère agitée de son quotidien. Steve Giroux, le travailleur social, voit son travail chez SABSA comme une chaloupe de sauvetage à côté d'un grand paquebot. Le bateau, c'est le système de santé et il compte plusieurs étages. M. Giroux dit qu'il essaie de faire remonter des patients sur le bateau, mais qu'il n'y arrive pas souvent. « Je prends le CB, j'appelle le paquebot, mais la guérite n'ouvre pas. » Alors, il reste dans le pneumatique avec ses patients et continue à en repêcher d'autres. C'était « Une journée chez SABSA, le canot de sauvetage du réseau », un texte d'Isabelle Porter paru le 6 avril 2024 dans Le Devoir.
Choses à ne pas faire au restaurant. Un texte de Megan Jones, paru le 27 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Que ce soit de se plaindre des prix ou d'avoir un comportement désobligeant avec le serveur, voici des choses à ne pas faire au restaurant. Nous mangeons souvent au restaurant pour souligner une occasion spéciale ou simplement pour nous gâter. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons nous comporter comme bon nous semble, loin de là. En plus des erreurs d'étiquette à table que nous devons arrêter de faire, voici certains comportements trop fréquents que plusieurs experts en étiquette, des restaurateurs et des clients, s'entendent pour dire qu'ils n'ont vraiment pas leur place au restaurant. Déranger les autres clients. Non, un restaurant n'est pas une bibliothèque. Et il est bien sûr acceptable de rire et de parler. Beaucoup d'établissements plus informels peuvent même être assez animés. Mais votre groupe et vous n'êtes pas seuls dans le restaurant. Si vous ne faites que crier ou faire du bruit, vous vous montrez irrespectueux envers les autres clients. Autre comportement que les employés et les clients déplorent, les parents qui laissent leurs enfants courir partout dans le restaurant et déranger les autres clients. Il y a des terrains de jeu et des cours arrière pour ça. Comme cliente, Antoinette Kuritz se souvient d'un moment en particulier où elle mangeait dans un restaurant à La Jolla, en Californie. Une famille d'une dizaine de personnes est arrivée et s'est assise à une table en plein milieu de la salle. Les adultes ont commencé à parler fort pendant que les enfants couraient partout en jouant à la tag. Le gérant a été averti de la situation, mais n'a rien fait pour la corriger. Une fois de retour à la maison, j'ai téléphoné au restaurant pour leur dire à quel point la nourriture était excellente et le service impeccable, mais pourquoi je ne fréquenterais plus ni ne recommanderais leur établissement. Traiter le serveur comme son inférieur. Ce comportement est largement considéré comme l'un des plus irrespectueux au restaurant. Bon nombre de recherches révèlent que le fait d'être impoli envers votre serveur peut instantanément vous faire paraître peu séduisant lors d'un rendez-vous. Outre les comportements tels que crier ou élever la voix pour attirer l'attention de votre serveur, votre simple attitude peut être perçue comme condescendante aux yeux du personnel. Par exemple, n'oubliez pas les civilités de base, comme « s'il vous plaît » et « merci ». En général, comme le dit Kalev Rudolph, rédacteur spécialisé dans l'alimentation et l'art de vivre pour insurantly.com, il faut se rappeler que le serveur ne fait que son travail. Votre serveur est au travail, et bien qu'il soit là pour s'occuper de vous et veiller à votre confort, c'est tout de même un professionnel, explique-t-il. Juste parce que quelqu'un vous sert ne doit pas vous faire oublier que la personne derrière le bloc-notes ou qui remplit votre verre est justement une personne. Blâmer le serveur pour tout. La règle voulant de ne pas vous montrer désagréable envers votre serveur s'applique même lorsque votre repas ne se passe pas comme vous le voulez. Comme l'indique Kalev Rudolph, beaucoup de problèmes courants de restauration ne sont pas la faute des serveurs, mais ce sont quand même ces derniers qui écopent du plus grand nombre de plaintes. Les clients reportent souvent sur les serveurs leur frustration liée au retard dans le service ou à une mauvaise gestion, alors que ceux-ci n'ont aucun contrôle sur ce qui se passe en cuisine, note-t-il. Naturellement, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas être frustré si un serveur ne s'occupe pas de votre table ou s'il vous ignore carrément. Mais si vos plats mettent du temps à arriver et que votre serveur vous tient au courant de la situation, montrez-vous aimable à son endroit. Demandez quelque chose en échange d'un pourboire. Je vais vous donner un bon pourboire si vous m'apportez plus de guacamole. Qu'il s'agisse ou non d'une plaisanterie, c'est ni plus ni moins un pot de vin, et ce n'est pas approprié. Et ce n'est pas comme si votre serveur était autorisé à accéder à votre demande. Les serveurs préféreraient également que vous ne leur disiez pas « Je suis pressé, pouvez-vous me servir rapidement ?» ou quelque chose du genre. Dans la plupart des cas, la vitesse du service est encore une fois hors du contrôle du serveur. Apporter de la nourriture venant d'ailleurs. Le café à emporter que vous êtes allé chercher pendant que vous attendiez que votre table pour le brunch soit prête, débarrassez-vous-en avant d'entrer dans le restaurant, précise Nick Lathan, un expert en étiquette chez Were You Raised by Wolves? De nombreux établissements affichent la demande de ne pas apporter de nourriture ou de boisson venant d'ailleurs, et c'est une règle que les clients respectueux suivent. Se présenter juste avant l'heure de la fermeture. Il faut éviter de vous présenter juste avant l'heure de la fermeture du restaurant ou juste avant la fermeture de la cuisine, selon l'endroit choisi. Sinon, cela rend certainement le travail du personnel plus difficile, et vous y perdez vous-même au change quant au service. Vous serez bousculé et votre serveur se montrera probablement agacé. Se plaindre du prix. Même scénario que si vous vous plaignez des erreurs de la cuisine auprès de votre serveur. Ce n'est pas lui qui décide des prix. Lui dire qu'un certain plat est un peu cher ne vous rendra aucunement service. Ça vous fera simplement passer pour quelqu'un de mal commode. Vous écoutez 15 choses à ne pas faire au restaurant, un texte de Megan Jones, paru le 27 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Demandez plus d'assaisonnement. Ce ne sont pas tous les repas au restaurant qui vont vous plaire. Si on ne vous apporte pas ce que vous avez commandé, il est évident que vous pouvez tout à fait demander, sans être impoli, qu'on vous le change. Mais n'exagérez pas en demandant par la suite toutes sortes de petits ajouts. Le sel, le poivre et le ketchup sont acceptables. Mais n'allez pas demander plus d'épices qu'à jeun, de poivre à l'ail ou de cannelle de la cuisine, précise Enrique Limardo, copropriétaire et chef exécutif de Seven Reasons à Washington, D.C. Vous insinuez ainsi que le chef n'a pas fait de son mieux. Aidez le serveur avec les assiettes. Aider le serveur avec les assiettes est l'une des choses à ne pas faire au restaurant alors que vous pensez probablement lui rendre service. Mais comme le fait remarquer James Metcalf de Marathon Bet, qui a demandé conseil à son ami restaurateur, c'est naturel de vouloir débarrasser votre serveur lorsque vous le voyez arriver les bras chargés des plats que vous allez déguster. Mais cela peut, pour ainsi dire, le débalancer. En vous élançant vers le serveur depuis votre siège, vous risquez de perturber l'équilibre qu'il a soigneusement établi sur son plateau, explique-t-il. Comme il a passé beaucoup de temps à s'entraîner pour arriver à faire ça, c'est un pro à la matière. Alors, même si vous pensez probablement lui rendre service, c'est correct de rester assis à votre place. Demandez tardivement de séparer l'addition. Ne prenez pas l'addition en disant « Pourriez-vous séparer le montant en 5? » Oui, il arrive que les serveurs la déposent sur votre table sans vous demander si vous êtes prêt pour l'addition ou sans que vous l'ayez demandé. Mais si vous comptez demander à votre serveur de faire un partage plutôt compliqué de l'addition, la chose polie à faire est de l'en avertir avant qu'il ne l'apporte. Dans notre mode de paiement par PayPal, diviser la somme totale est plus simple que jamais. Alors, ayez de la considération pour votre serveur avant de lui demander plusieurs additions séparées. Racontez beaucoup de blagues entendues à répétition. Honnêtement, il ne s'agit pas là d'un comportement grossier, sauf si, bien sûr, les blagues sont grossières par nature, mais d'un comportement qui, selon Ryan McSweeney de Restaurant Insider, agace de nombreux serveurs. Ce n'est évidemment pas parce qu'ils manquent d'humour ou qu'ils ne peuvent pas s'amuser un peu, mais comme ils font ça toute la journée, tous les jours, il y a un nombre limité de fois où une personne peut supporter d'entendre une variante de « Comme vous pouvez le voir, nous avons détesté ça », tout en montrant les assiettes vides. Encore une fois, dire ce genre de choses n'est pas considéré comme impoli, mais n'agissez pas comme si le serveur avait gâché votre journée simplement parce qu'il n'a pas ri aux larmes en entendant votre blague. Laissez un énorme désordre. Oui, le fait que votre serveur ramasse votre vaisselle est l'un des avantages les plus agréables d'un repas au restaurant. Mais ça ne devrait vraiment pas dire qu'il n'y a plus de place pour la propreté et que vous devez tomber en mode de laisser aller. Oui, vous payez pour votre repas et pour que quelqu'un nettoie votre table. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre son travail en considération et faire un petit effort pour essuyer le ketchup renversé à l'aide d'une serviette, dit Caleb Rudolph. Gardez toutefois à l'esprit qu'en cas de gros dégâts, c'est parfaitement légitime de demander à votre serveur de vous apporter des serviettes supplémentaires et d'accepter son aide. Mais essayez de ne pas laisser une table jonchée d'aliments collants ou de restes de nourriture. S'attendre partout à une multitude d'options végétaliennes. C'est certainement une bonne chose que de nombreuses personnes choisissent de réduire ou d'éviter complètement les produits d'origine animale. Il est également très positif que de nombreux restaurants et entreprises alimentaires répondent à cette tendance en proposant des options végétariennes ou végétaliennes. Ces changements ne doivent cependant pas vous amener à penser que vous pouvez trouver des options à base de plantes partout et en tout temps. Comme aucun restaurant ne propose tous les types d'aliments, il vous incombe vraiment de prendre le pouls de l'endroit. Si vous êtes dans un établissement qui n'est manifestement pas spécialisé dans les options végétaliennes ou qui n'en fait pas la publicité, ne vous plaignez pas auprès des serveurs des options que le restaurant propose. Utilisez son téléphone. Oui, nous savons que nous faisons preuve ici d'une technophobie dépassée, particulièrement à une époque où, pour les gens qui vont au restaurant, prendre des photos de leur plat est presque aussi important que de le manger. Et utiliser votre téléphone n'est pas toujours inacceptable. Par exemple, si vous voulez montrer à votre compagnon de table une photo de quelque chose dont vous parliez. Mais, en règle générale, ne parlez pas au téléphone pendant que vous mangez et ne le gardez pas à côté de vous sur la table. Et éteignez impérativement les différentes sonneries. Qui veut entendre ça à répétition pendant tout son repas? Se pencher au-dessus de la table pour prendre quelque chose. Demandez à vos compagnons de table de vous passer les pommes de terre ou le beurre peut sembler un conseil dépassé tout droit sorti d'un manuel d'étiquette des années 1950. Mais cela fait réellement partie des bonnes manières à table. Si quelque chose est assez loin de vous pour que vous deviez vous pencher inélégamment au-dessus de la table afin de l'atteindre, vous devriez vraiment demander à quelqu'un de vous le passer. Et même si ce quelque chose n'est pas si loin de vous, vous éviterez ainsi de provoquer d'éventuels dégâts. C'était 15 choses à ne pas faire au restaurant. Un texte de Megan Jones, paru le 27 mars 2024 dans Sélection du Reader's Digest.